Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Maïlys Bessery, bonjour à tous. À Hong Kong, le pouvoir essaye de donner des signes d'ouverture face aux manifestants pro-démocratie. Carrie Lam, chef de l'exécutif local, annonce qu'elle souhaite établir une plateforme de dialogue. Est-ce de nature à apaiser la colère? Cela paraît assez peu probable, nous dira Valérie Crova. Pendant ce temps, les plateformes Twitter et Facebook ont suspendu près d'un millier de comptes soupçonnés de faire campagne pour justement discréditer le mouvement pro-démocratie hongkongais. L'Italie suspendue aux lèvres de Giuseppe Conte, le Premier ministre qui doit s'exprimer aujourd'hui devant le Sénat au sujet de la crise politique. Il pourrait présenter sa démission, mais Giuseppe Conte s'est quoi qu'il en soit affirmé dans cette crise et il ne faut pas l'exclure trop rapidement du jeu. C'est ce qu'estime le politologue Christian Blasberg que nous entendrons dans cette édition. Le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine, attaqué en justice pour un arrêté anti-pesticide. Il comparaît jeudi devant le tribunal administratif de Rennes. La préfecture est estime que l'arrêté en question est illégal. Nous ferons le point avec Fiona Mogadam. Au sommaire de la grande table d'été, Maïlys Bessery.
Et ben nous allons parler de Giverny, pas de la maison Claude Monet, mais de l'exposition consacrée au peintre Roussel. Puis nous ferons le portrait de Kelly Rivière, comédienne et auteure de la pièce An Irish Story.
Et ce sera donc à 12h45. Après la manifestation monstre de dimanche à Hong Kong qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes, l'exécutif hongkongais veut tendre la main. Sa chef Carrie Lam annonce ce matin qu'elle veut mettre en place une mission d'information et établir une plateforme de dialogue avec les manifestants pour essayer de trouver une issue à cette crise. A-t-elle réussi à les convaincre ces manifestants? Valérie Crova, ce n'est pas certain.
On dit d'elle que c'est une dame de fer. Dans une conférence de presse télévisée, Carrie Lam a montré ce matin un visage plus conciliant. Elle a répondu aux revendications des manifestants, mais sans pour autant les satisfaire. Les violences policières, une enquête de la police des polices de Hong Kong, sera ouverte sur les 174 plaintes qui ont été déposées depuis le début du mouvement. Les protestataires demandent quant à eux l'ouverture d'une enquête indépendante. Le responsable de la police des polices est en effet nommé par la chef de l'exécutif elle-même. Le projet de loi sur les extraditions qui a mis le feu aux poudres, il est mort, nous ne prévoyons pas de le ressusciter, a dit Carrie Lam. Mais les manifestants ne lui font pas confiance, ils veulent qu'il soit tout simplement abandonné, alors qu'il n'a été que suspendu. Quant à l'autre principale revendication des militants pro-démocratie, à savoir sa démission, Carrie Lam ne l'a pas évoqué. Il est vrai que son départ serait interprété comme un aveu de faiblesse de Pékin qu'il a nommé à son poste il y a 2 ans.
Valérie Crova. La Chine mène-t-elle une campagne sur les réseaux sociaux pour tenter de discréditer cette mobilisation à Hong Kong? C'est en tout cas ce qu'affirment Twitter et Facebook. Les deux réseaux ont suspendu près d'un millier de comptes actifs qui seraient donc liés à cette campagne de dénigrement des manifestations. Pour exemple, Facebook précise que certaines publications de ses comptes comparaient les manifestants aux combattants de Daesh, en les traitant de cafards et en leur attribuant de soi-disant projets de meurtre au lance-pierre. À noter également sur ce sujet toujours l'inquiétude du ministère des Affaires étrangères britannique. Un membre du consulat a disparu alors qu'il revenait à Hong Kong depuis la ville chinoise de Shenzhen. Le ministère anglais dit avoir des informations selon lesquelles l'homme aurait été arrêté. Voici ce que l'on peut lire dans un communiqué du ministère. Nous sommes extrêmement préoccupés, nous apportons notre soutien à sa famille et nous cherchons davantage d'informations auprès des autorités dans la province de Guangdong et à Hong Kong. Fin de citation. En Syrie, djihadistes et rebelles ont quitté aujourd'hui le secteur clé de la région d'Idleb. Ils sont partis de la ville de Khan Sheikhoun dans le nord-ouest du pays après avoir été ciblés par une offensive du régime de Bachar al-Assad. Le régime syrien et son allié russe intensifiaient depuis des mois les bombardements sur ce secteur. Eric Biegala, bonjour.
Bonjour Ilan.
Qu'est-ce que ce départ des djihadistes et rebelles de cette zone peut changer à la situation actuelle?
Alors, il y a 1h30 environ, les forces pro-régime ont annoncé avoir pénétré dans les quartiers nord de Khan Sheikhoun. Certaines unités rebelles, peut-être des djihadistes d'Ayat Tahrir al-Sham, anciennement affiliés à Al-Qaïda, se trouveraient encore dans les quartiers sud, selon le porte-parole du groupe. Mais il semble qu'il ne s'agisse plus que de forces résiduelles. En fait, durant les dernières heures, toutes les forces opposées au régime, dans le sud de l'enclave d'Idlib, qu'il s'agisse des djihadistes comme des autres rebelles, toutes semblent semblent avoir décroché de leur position en défense et se replier soit dans les campagnes environnantes, soit plus au nord vers le cœur de la poche d'Idlib. Khan Cheikhoun, l'une des principales villes de la province d'Idlib, serait une prise de choix pour le régime. La ville, 35 000 habitants avant-guerre, a été évacuée par ses habitants ces derniers mois à partir du moment où les troupes de Bachar al-Assad ont repris leur bombardement au printemps dernier. Aujourd'hui, un nombre encore indéterminé de combattants rebelles se retrouvent virtuellement encerclés, assiégés dans des positions difficilement défendables au sud de Khan Cheikhoun, avec eux des soldats turcs, ceux du poste d'observation de Morek, tout au sud de l'enclave, ce qu'Ankara voulait ravitailler hier en lançant un convoi lourdement armé à sa rescousse, convoi qui a été bombardé et stoppé par l'aviation de Bachar al-Assad. De sources militaires turques, on indiquait ce matin que des négociations avaient commencé avec les Russes pour tenter d'évacuer les soldats turcs vers le nord dans l'enclave d'Iklim. Celle-ci se réduit aujourd'hui comme peau de chagrin. À l'intérieur s'entassent toujours près de 3 millions de personnes, des civils, souvent des personnes déjà déplacées, les dernières en fait à vivre encore dans cette toute petite partie du pays, encore contrôlée par des rebelles.
Merci à vous Eric Biegala. La Russie accuse les États-Unis d'escalade des tensions militaires. Il s'agit d'une réaction après l'annonce américaine du test réussi de missiles de portée intermédiaire. Dimanche dernier, c'était le premier test du genre depuis la guerre froide, conséquence de la fin du traité de désarmement INF. En Italie, discours très attendu cet après-midi au Sénat du Premier ministre Giuseppe Conte. Alors que va-t-il dire par rapport à cette crise politique qui secoue le pays? Plusieurs options sont possibles. Va-t-il démissionner? Va-t-il rester à la tête d'un exécutif remanié avec ou sans la Ligue de Matteo Salvini qui a justement ouvert cette crise? Quoi qu'il en soit, Giuseppe Conte a affirmé durant cette crise une carrure politique qui avait probablement au départ été sous-estimée. C'est en tout cas ce qu'estime Christian Blasberg, politologue, professeur à l'université Louis de Rome, interrogé par Antonino Gallofaro.
Tout le monde a pensé au début que Conte était seulement une espèce de marionnette, qu'à la fin, les deux forces politiques, Di Maio et Salvini, pourraient faire ce qu'ils voulaient avec Conte. Quelquefois, c'était comme ça, mais Conte, comme une personne très calme, comme une personne très claire quand il était nécessaire, il a démontré que la politique n'est pas seulement l'agitation qu'on a vue de Salvini, l'agitation qu'on a vue aussi de Di Maio. Conte, il était le garant d'une politique de la raison, qui a du respect devant les institutions, qui vraiment représente la neutralité entre les forces politiques. Et maintenant, il est bien possible qu'il peut profiter de cette crédibilité qu'il a créée autour de sa personne. On parle d'une possibilité d'un gouvernement formé des 5 étoiles et du Parti démocratique. Et ce gouvernement pourrait être de nouveau présidé par Giuseppe Conte, parce qu'aussi le Parti démocratique a vu que Conte n'est pas un homme du parti, il est un homme qui n'a pas des ambitions personnelles. Et donc cela est très important pour les Italiens, et il pourrait être un garant pour tous les autres partenaires politiques aussi au dehors de l'Italie.
Christian Blasberg au micro d'Antonino Gallofaro. En Italie toujours, le bateau humanitaire Open Arms est toujours bloqué à proximité de l'île de Lampedusa. Cette nuit, ce sont 8 migrants et un accompagnateur qui ont été autorisés à débarquer. Ces personnes nécessitaient une assistance en urgence et donc une évacuation médicale. C'est ce qu'a assuré le fondateur de l'Open Arms, Oscar Camps. Une centaine de migrants restent bloqués malgré tout toujours sur le bateau, car les autorités italiennes leur refusent la possibilité d'accoster. Un accord au sein de l'Union européenne prévoit pourtant de répartir ces migrants entre plusieurs pays, dont la France, immédiatement après leur débarquement. Première partie de mission réussie dans l'espace pour la sonde indienne Chandrayaan 2. Elle est parvenue aujourd'hui à se placer en orbite lunaire. L'objectif, c'est de se poser autour du 7 septembre, de poser plutôt un atterrisseur et un robot mobile près du pôle sud de la Lune. Si cela réussit, l'Inde deviendrait la 4e nation à réussir un alunissage après l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine. Biarritz sera le centre du monde en fin de semaine avec l'accueil du G7, mais en ce moment c'est plutôt à quelques kilomètres du côté d'Hendaye, Irun et Urugne que ça s'active. Près de 80 organisations et associations organisent un contre-G7. Avant le début de leur sommet des alternatives, mercredi, qui sera rythmé par des ateliers, des conférences et des manifestations jusqu'à dimanche, les premiers participants sont arrivés dès hier matin pour mettre en place le campement. Ils se sont installés au domaine de Bordaberry, entre Hendaye et Urugne. Alors le lieu et l'organisation soulèvent quelques questions, voire même des contradictions, Rosalie Lafarge.
C'est un joli parc d'une douzaine d'hectares niché sur la route de la Corniche, une résidence d'appartements de vacances avec une vue sur mer imprenable, à tel point que Nestlé, l'entreprise, avait décidé d'y installer un centre de colonies de vacances désormais fermé.
Ça nous a titillé, effectivement. Malheureusement, on n'a pas eu le choix.
Sébastien Bailleul est le porte-parole de la plateforme nationale Alternative G7.
Ce qu'on souhaitait au départ, c'était d'être dans un centre-ville, de pouvoir avoir des animations, des stands, etc. Quelque chose qui soit vivant et non pas être enfermé sur un camp. En l'occurrence, la seule solution qui nous a été proposée, c'est celle-ci. Effectivement, il y a un petit clin d'œil ironique dans tout ça, c'est que c'est un ancien centre Nestlé. Maintenant, l'idée, c'est justement de pouvoir être complètement libre de dénoncer les pratiques de ces multinationales qui, au quotidien, détruisent l'humain, la nature, etc., etc.
Mais il n'y a pas que l'emplacement qui pose question. Daniel Mesplet fait partie de l'Union syndicale solidaire et participe à l'organisation du contre-sommet.
C'est un contre-sommet accepté. On est dans une contradiction pas possible, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la volonté de montrer notre dénonciation de ce système-là et on a été obligé de négocier et c'est hyper cadré par les autorités, c'est clair. L'État a accepté qu'on fasse une manif déclarée samedi. Ils vont mettre à notre disposition des bus pour que les gens qui sont sur le camp puissent aller à la manif. L'État nous amène à la manif.
Une manifestation prévue et déclarée au départ d'Andaï samedi, premier jour du G7, avant une action de désobéissance civile dimanche. Les anti-G7 prévoient d'occuper plusieurs places publiques autour de Biarritz et ne disent pour l'instant pas lesquelles, mais ils promettent une action pacifique.
Rosalie Lafarge. Le maire d'une commune bretonne de 602 habitants est assigné en justice pour avoir pris un arrêté anti-pesticides. Il s'appelle Daniel Cueff, il est le maire de Langouette. Il va assurer seul sa défense à l'audience jeudi prochain devant le tribunal administratif de Rennes. Bonjour Fiona Mogadam.
Bonjour Ilan.
C'est la préfecture qui attaque cet arrêté car elle estime qu'il est illégal.
Avec cet arrêté, le maire de Langouette entend préserver la santé de ses administrés. Le village de 600 habitants est engagé depuis 20 ans dans la transition écologique. Cantine 100% bio, logements sociaux écologiques, entretien des espaces verts sans produits phytosanitaires. Mais quelques agriculteurs sur le secteur n'ont pas suivi le mouvement, d'où l'interdiction par arrêté de Daniel Cueff d'utiliser des pesticides dans un rayon de 150 mètres autour des maisons et bureaux pour protéger les habitants lors des épandages.
Les gens ont fait des analyses d'urine dans lesquelles ils ont trouvé du glyphosate et je me souviendrai toujours de cette famille qui, pour les enfants, alors qu'ils mangent bio chez eux, alors que leurs enfants mangent bio à la cantine communale, ils ont des taux 30 fois supérieurs à la normale autorisée. Ils ont respiré, malgré eux, des pesticides. Les gens ne sont plus d'accord d'accepter ça, et ils résistent à ça. L'État ne faisant rien, je considère qu'il y a une carence forte de l'État. Je me trouve dans l'obligation morale et puis juridique, j'espère, de prendre un tel arrêté de protection des populations.
C'est précisément sur ce point que la préfecture juge l'arrêté illégal. L'interdiction des pesticides est normalement une compétence du ministre de l'Agriculture, à moins d'un péril imminent ou de circonstances particulières, des conditions qui ne sont pas remplies, d'après la préfète d'Ille-et-Vilaine, qui ne pouvait donc que déférer l'arrêté au tribunal administratif, indique-t-elle dans un communiqué.
Merci à vous, Fiona Mogadam. À noter qu'en 2016, le maire que nous venons d'entendre avait déjà pris un arrêté du même type pour interdire les pesticides tueurs d'abeilles dans un rayon de 3 km autour des ruches. Il n'avait pas fait l'objet de poursuites de la part du préfet de l'époque. Il était compositeur en résidence auprès de l'Orchestre de Bretagne depuis 2017. Julien Gauthier, musicien français de 44 ans, est décédé le 15 août au Canada, tué par un ours, on l'apprend aujourd'hui. Il était parti en expédition au nord-ouest du pays. L'objectif de ce périple d'un mois était d'enregistrer des sons notamment. C'est un genre littéraire assez peu connu, mais qui est en passe d'être reconnu, la fan-fiction. Comprenez le fait de prolonger ou d'écrire totalement une œuvre qui existe déjà, mais à sa façon, à soi. Un roman, un film ou une série, par exemple. Il existe des millions de fan-fictions sur Internet, et l'un des sites qui en produit, Archive of Your Own, a reçu dimanche le prix Hugo. C'est un prix littéraire prestigieux américain qui récompense des œuvres de science-fiction et de fantasy. Laura Dulieu.
Archive of Your Own, en français Notre Propre Archive, a reçu le prix Hugo dans la catégorie Travaux apparentés. Le site a été créé en 2008 pour construire une gigantesque bibliothèque de fanfiction sur Internet. En clair, une plateforme à but non lucratif créée par des fans et pour des fans. À l'heure actuelle, ce sont plus de 5 millions de récits archivés et accessibles gratuitement, plus de 2 millions d'utilisateurs et des dizaines de milliers de communautés de fans qui revisitent des romans, des séries télévisées ou des films. On trouve par exemple plus de 200 000 récits sur Harry Potter, presque 400 000 sur les Marvel, sans oublier la série Game of Thrones. Il y a même des fictions sur les Misérables de Victor Hugo ou sur des célébrités bien réelles. Alors cette pratique est loin d'être nouvelle, elle existait déjà avant l'ère du numérique, mais Internet a clairement fait exploser le nombre de récits, au point de poser forcément la question du droit d'auteur. Aux États-Unis, il est possible de plaider l'usage loyal d'une œuvre. Ailleurs, le flou juridique est bien réel, mais l'usage est toléré quand ce n'est pas lucratif. Quoi qu'il en soit, ce prix littéraire est synonyme de reconnaissance pour les fans auteurs qui revendiquent de réelles œuvres culturelles. En 2006, déjà, Geraldine Brooks avait reçu rien de moins qu'un prix Pulitzer pour sa fanfiction autour du roman Les quatre filles du docteur March.
Laura Dulieu, cet après-midi, c'est globalement du beau temps ensoleillé. Quelques risques d'averses malgré tout, de la Bourgogne jusqu'à la Côte d'Azur. Température de l'après-midi comprise entre 17 en Haute-Savoie et 32 en Haute-Corse. Édition préparée avec Julien Loquet et Nicolas Pommet, réalisé à la technique par Jacques Hubert. 12h45 sur France Culture, vous retrouvez tout de suite Maïlys Bessery pour la grande table d'été.
Merci Ilan, on vous retrouve à 18h.